Chaque dernier jeudi du mois à 19h et le dimanche suivant à 14h, retrouvez au cœur de la ville persan le magazine consacré à la ville et à ses habitants.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, au sommaire de votre magazine, rencontre musicale avec Kent à la médiathèque Boris Vian. Ce magazine se poursuivra à l'auditorium avec l'interview de Patrick Laviron, directeur du conservatoire, à l'occasion du 3e millésime d'Écoute ma compo. Et on terminera bien entendu, comme à l'accoutumée, avec les infos pratiques de la ville de Persan. Bonne écoute à tous.
Vous écoutez au cœur de la ville Persan.
Kent, l'ancien chanteur du groupe punk Starshooter, était présent le samedi 12 novembre à la médiathèque Boris Vian de Persan pour une rencontre musicale sur sa carrière, ses chansons, ainsi que les romans qu'il a écrits. Un très beau moment d'échange avec son public persané.
Bonjour Kent.
Bonjour.
On est absolument ravis de vous recevoir. Vous avez plein de choses à nous dire. Vous avez un parcours extrêmement riche et long. Une longue carrière. Alors je vous disais à l'instant, dans votre cas, le mot carrière me gêne un peu parce que d'abord vous êtes un ancien punk. Donc punk et carrière, c'est pas forcément des mots qui vont super bien ensemble. Et ensuite, on a l'impression que dans votre cas, vous n'avez pas forcément un parcours qui pouvait être calculé au départ ou qui allait dans une direction... Enfin, vous n'avez pas forcément cherché une recette de succès ou quelque chose comme ça. On a l'impression que vous êtes vraiment guidé par une envie d'explorer plein de directions, plein de voies de création. Voilà, vous n'avez jamais cédé aux recettes faciles. Du coup, vous avez un parcours qui est hétéroclite, super varié et un public qui vous suit... qui est fidèle et extrêmement varié lui aussi. Entre 77 et 82, vous avez été le chanteur de Starshooter.
Ouais.
Et ensuite, vous êtes parti en solo, vous avez fait plus de 15 disques. Parallèlement, vous avez fait beaucoup de bandes dessinées dans les années 80. Vous y êtes revenu récemment en 2005. Vous avez écrit 6 romans, un essai sur la chanson, un recueil de sonnets, plus des livres jeunesse. Vous avez signé les illustrations d'un livre-disque pour enfants qui s'appelle l'Alphabet. Et vous avez un site internet qui lui aussi est très riche, sur lequel vous publiez régulièrement des articles très écrits sur l'actualité, vos inspirations, la conception de vos disques. Vous tenez des journaux de création d'albums, donc on peut quasiment dire que vous êtes blogueur en plus. Donc vous vous arrêtez jamais d'écrire en fait?
Ben si, je m'arrête et je recommence. J'ai des grands moments où je fais autre chose que de raconter ce que je fais. Parce qu'il faut vivre pour raconter, avoir quelque chose à raconter. Donc voilà. Le site, c'est une contrainte qui est intéressante. Je crois que je n'aurais pas de site, je n'écrirais pas. Et maintenant que j'ai un site et que j'ai une newsletter à envoyer à des gens qui sont abonnés, je me dois de tous les 2-3 mois écrire quelque chose. Et puis quand il y a l'actualité, c'est plus courant, mais c'est un plaisir en fait, c'est un plaisir, j'aime bien trouver comment formuler des pensées, écrire c'est ça, et que ce soit de la chanson ou un blog ou un roman, c'est comment formuler précisément ce qu'on a en tête. Je rature énormément en fait, ça me prend beaucoup de temps, c'est aussi bien pour écrire une chanson que pour écrire un article dans mon site, je passe vraiment beaucoup de temps. C'est pas jeté comme ça. Je me rends compte en fait que quand j'écris, le premier jet n'est jamais le bon. Ou rarement. Rarement, ce que je dis rarement, c'est une fois sur mille que c'est le bon. Mais c'est jamais le bon, c'est jamais précis. Il peut y avoir incompréhension. J'essaie que tout le monde puisse comprendre réellement ce que je dis ou bien puisse ne pas comprendre du tout. C'est aussi une démarche. Dans certaines chansons, j'ai pas envie d'être direct, donc je pars dans le flou. Mais aussi, pareil, trouver le flou, c'est pas évident, quoi. Moi, c'est un plaisir que j'ai. Je crois que c'est quelque chose qui est très, très répandu aujourd'hui. Je sais pas si c'est du fait d'Internet, mais y a beaucoup de gens se racontent. Alors bon, soit avec des selfies comme ça, et avec mais beaucoup écrivent, quoi, et essayent de publier aussi, c'est très courant. Donc je suis pas original de ce point de vue.
C'est une autre facette de l'écriture en fait, où finalement vous êtes présent aussi, quoi. Donc c'est vrai que c'est une autre façon d'écrire les blogs, ça débouche en ce moment beaucoup sur des livres d'ailleurs. Comment vous avez eu envie d'écrire pour la jeunesse?
Alors, j'écris des romans, j'ai commencé par la chanson, j'ai commencé aussi par la bande dessinée, ça c'est quelque chose qui s'est fait en parallèle quand j'étais plus jeune, quoi. Quand j'étais adolescent, je sais pas, dès l'âge de 13 ans, donc ça a commencé par la bande dessinée, vers 12-13 ans, et puis quand j'ai commencé à avoir de l'acné et puis les cheveux qui poussaient, je me suis dit, oh, ben, je vais aussi faire chanteur dans un groupe. Et je me suis tenu à ça, c'est-à-dire qu'à 13 ou 14 ans, c'était évident pour moi, ma vie ce serait la musique et la bande dessinée. il se trouve que ça s'est réalisé, j'ai eu pas mal de chance quand même, quoi. Tout ce qui m'est arrivé ensuite, je me disais, ah, ce serait bien d'écrire un bouquin, ce serait bien de faire ci, ce serait bien de faire ça, mais je me lançais pas, quoi. Et c'est arrivé par des opportunités.
Vous êtes venu assez tôt au roman.
Bah, le roman,
c'est... Je crois que c'est 86, je crois.
Bon, c'est le premier roman est sorti en 86, mais c'est arrivé beaucoup plus tôt parce que c'était à l'époque de Star Shooter. À la fin d'un concert, il y a un directeur de collection, un jeune directeur de collection, qui est venu me voir et qui m'a dit j'aime beaucoup comme vous écrivez vos chansons, j'aimerais que vous fassiez un roman pour ma collection de polars que je lance. Et c'était la collection Sanguine chez Albin Michel, je crois me souvenir. Avec des écrivains de polar plutôt bons de l'époque, quoi, comme Richard Morgiev, je ne sais plus qui encore il y avait, enfin bon, c'était des gens qu'on lisait à l'époque. Bon, je me suis trouvé très flatté de ça et je me suis dit, ouais, super, je le fais. Et moi, pour moi, un polar, c'était 250 pages, je me suis dit, allez, c'est bon, en deux mois, je l'ai écrit, quoi. Et puis finalement, bah, ouais, des ratures, machin, hein, ça a pris plus de temps. Et puis en plus, à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, je ne savais pas taper à la machine, donc c'était tout manuscrit comme ça, avec rayé au stylo. Et quand j'ai eu fini, la collection n'existait plus. Ça m'a pris 2 ans au lieu de 2 mois. Et donc je me suis retrouvé avec ce manuscrit et je me suis dit, bon, bah, c'est con. Mais, et puis il se trouve qu'entre-temps, ma vie a changé, j'ai déménagé, je suis parti de Lyon pour vivre à Paris, j'ai arrêté la bande dessinée pour des histoires diverses d'éditeurs qui, eux aussi, fermaient leurs portes, de mon compagnon de dessin qui était un copain de classe qui faisait mes scénarios est décédé très jeune et ça m'a laissé comme ça, quoi. Et j'ai oublié le roman dans toutes ces histoires. Une fois que je suis arrivé à Paris et que j'ai déballé mes cartons, j'ai retrouvé ce manuscrit en me disant, bon, voilà, un roman, c'est un roman s'il est lu par quelqu'un. S'il est lu par personne, c'est du papier. Et là, j'ai cherché un éditeur, j'ai eu 2-3 pistes, et il y en a une qui a marché. Donc le roman est sorti donc 3 ans après son écriture, comme ça. Et après, ça a continué parce que, voilà, l'éditeur a bien aimé, il a voulu que j'en fasse un autre, et puis un autre, et puis un autre, et puis... ça s'est fait comme ça. Et l'écriture des bouquins de jeunesse, pour la jeunesse, pardon, c'est pareil, c'est m'est venu... Non, c'est pas moi qui ai décidé, parce que je me sentais pas... Je savais pas comment on faisait ça. C'est un illustrateur de livres pour jeunesse qui s'appelle Stéphane Girel, qui est un illustrateur de talent, qui fait énormément de bouquins pour la jeunesse, qui adore la chanson, en fait, et le rock. C'est vraiment un gars qui en consomme énormément. Il a même des pirates incroyables. Il avait des pirates de moi, d'ailleurs. C'est comme ça qu'on est entré en contact, parce que pour me flatter, pour me demander si je voulais écrire une histoire pour lui, il m'a envoyé des pirates de moi. Donc, voilà, quoi. Et puis, ça a démarré comme ça. La première histoire n'a pas été prise, la deuxième a été prise, la troisième aussi. Il y en a d'autres qui n'ont pas été prises. Mais c'est pas mon truc, en fait. C'est pas mon truc. Je sais pas bien écrire pour les enfants, en fait. Je suis vraiment un chanteur adulte, ça c'est clair, quoi. Donc si ça touche les enfants, c'est vraiment par hasard, et si j'arrive à écrire pour les enfants, c'est par hasard. Je me bats pas pour essayer d'en faire d'autres. Donc le dernier que j'ai fait pour les enfants, c'est en tant qu'illustrateur, parce que là on m'a proposé, c'est l'alphabet, et c'est quelqu'un qui a écrit une petite chanson par lettre de l'alphabet, pour apprendre justement l'alphabet aux enfants, et qui voulait que j'illustre chaque chanson. En 87, par là, ouais, c'est ça. J'ai fait un concert à Paris. Je venais de sortir mon deuxième album, solo ou troisième. C'était, on va dire, un succès d'estime. J'étais en train de me refaire un nom. Après avoir été le chanteur Star Shooter, il fallait que je sois Kent, ce qui était 2 choses différentes. Et j'ai fait un concert à Paris qui s'était plutôt bien passé, en fait. Et 2 jours après, j'ai reçu une lettre d'Enzo Enzo. Voilà. Que je connaissais à l'époque de Star Shooter parce qu'elle était bassiste dans le groupe Lily Drop. Et donc on se croisait pas mal dans des festivals. Et puis surtout, on avait le même éditeur musical, ce qui fait qu'on s'est rencontrés plusieurs fois. Même Lily Drop a fait les premières parties de Star Shooter. Donc c'était marrant, c'est quelqu'un que j'aimais bien. Voilà. Mais c'est tout. On n'était pas amis, on se fréquentait pas vraiment, quoi. Et donc je reçois une lettre d'Enzo Enzo qui me dit... moi aussi je fais ma carrière solo, je suis en train de préparer un disque, j'adore comme tu écris, est-ce que tu peux me faire des textes? Et alors là j'étais vraiment flatté, j'ai donné les textes à Enzo Enzo, c'était son premier album qui s'appelait Enzo Enzo. Il y a eu 3 chansons sur cet album, l'album a bien marché, les chansons ont plu. Quand elle a préparé son le suivant, bah, évidemment, j'étais sur le coup aussi. Et c'est là où il y a eu juste quelqu'un de bien qui a fait tout le reste. Qui m'a fait connaître, qui l'a fait connaître elle. Et voilà, quoi. Une belle rencontre, je ne peux pas dire mieux. Et d'ailleurs, on est restés très amis. C'est peut-être la seule amie de longue date que j'ai dans ce métier. Et c'est étonnant de se dire ça, parce qu'à cette époque-là, il y avait un manque d'auteurs. Et de hauteur peut-être aussi dans la chanson. Il manquait des gens pour écrire des bons textes. Moi, je dirais que il manquait des gens qui aiment écrire des textes sur tout ça, quoi. Il y avait toute une variété qui se contentait de textes un peu niaiseux, mièvres, et le public qui s'en contentait aussi. Donc, et à un moment donné, il y a une espèce d'exigence des interprètes, sûrement, et qui ont dit non, il faut des chansons qui racontent quelque chose. Enfin, voilà. Et on n'était pas 36 à écrire des chansons comme ça, a commencé à avoir un nom, donc on s'est adressé à moi. Et pour le cas de Johnny Hallyday, si vous voulez, Johnny, à chaque fois qu'il fait un album, tout le métier le sait, et c'est la ruée, quoi. Il y a des tas de chansons qui sont écrites pour lui, et puis lui, il prend dedans, quoi. Enfin, lui, l'homme qui a vu Johnny, il prend là-dedans, quoi. Voilà. Et c'était un peu ça à l'époque aussi, quoi. Alors moi, ce qui était assez marrant et flatteur à la fois, c'est, ou pittoresque plutôt, j'étais en studio pour faire un album qui s'appelait Tous les hommes, où il y avait la chanson Tous les mômes, qui allait bien marcher après. Et dans cet album, il y a une chanson qui s'appelle L'idole exemplaire, et les premiers vers de L'idole exemplaire, c'est « Petit, je me prenais pour Johnny Hallyday ». Voilà. Et la chanson raconte ça, comment finalement j'ai pris goût à la chanson. Quand j'avais 3 ans, je dansais le twist en chantant Johnny Hallyday. J'étais en studio en train de faire ce disque et cette chanson, et le téléphone sonne, et l'homme qui a vu Johnny m'appelle en disant « Johnny cherche des textes pour ses chansons, on a pensé à toi. Bah, » ça tombe bien, je suis l'homme de la situation. Et voilà, mais c'est, Johnny Hallyday, c'est bon pour la carte de visite, mais c'était pas une rencontre, si vous voulez, pour moi, c'est pas la même portée que Enzo que vous connaissez, ou d'autres gens que vous ne connaissez pas. J'ai fait beaucoup de chansons pour des inconnus. Thierry Romanence, personne ne le connaît, et pourtant c'est une super rencontre. Hervé Paul aussi, enfin bon, voilà. Mais en fait, j'ai beaucoup écrit pour des gens qui n'ont pas marché. Et à cette époque-là, à l'époque de Johnny, il y a eu aussi Zazie, qui faisait son premier album. Et je crois que d'ailleurs, c'est la même personne qui m'avait branché sur Johnny et Zazie, qui travaillait pour les deux. Et on m'a proposé d'écrire un texte pour Zazie. Moi, ça m'a surpris parce que je voyais ses chansons. Je me disais, mais elle écrit, pourquoi vous me demandez un texte? Elle écrit bien. Ah oui, bon, enfin, bon, elle aimerait bien. Enfin, je ne sais pas si c'est elle qui a voulu ou si c'est une démarche un peu marketing de la maison de disques. J'ai fait ce texte sur le premier album de Zazie. Puis voilà, puis je ne sais plus, après, il y a eu, bon, pour citer des noms, il y a eu Michel Fugain. Calogero, c'était intéressant de travailler avec lui. C'était vraiment très intéressant. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu de suite. J'ignore pourquoi. Enfin bon, en même temps, j'ignore et je sais pourquoi, parce que quand on est dans la musique, on aime bien, on a des passades. On adore quelqu'un pendant un moment, puis on a envie de passer à autre chose après. Moi-même, je le fais avec des compositeurs parfois, donc je ne prends pas ça mal, quoi. Mais c'était très intéressant, parce que Calo, c'est vraiment un très bon musicien, quoi. Il a vraiment un vrai sens de la mélodie, une belle exigence, à la fois dans la musique et dans le texte, à la fois exigeant et puis une liberté. Ça m'a beaucoup plu, quoi. Quand il m'a branché sur son album, L'Embellie, j'avais été surpris parce que, bon, déjà, que Calogero vienne me chercher, mais bon, pourquoi, il n'y a pas besoin de moi, apparemment, quoi. Et puis c'était, s'il avait besoin, il avait envie. Et puis il s'est adressé à Dominique A, aussi, à la même époque, à Dick Angarn. Et donc je lui ai dit, tiens, c'est étonnant, quoi, c'est presque une prise de risque par rapport à un chanteur comme Calogero. Et il m'a demandé des textes, j'ai apporté des textes, et puis il a pris dedans, et il m'a pas fait le coup de « ça va pas, ça faudrait changer ci, faudrait changer ça ». Enfin, il a pris tel quel et puis il a fait les chansons. Et ça a donné le titre, la chanson « L'Embellie » qui a donné le titre à l'album, voilà, avec lui. Et puis une autre chanson ensuite, bah, d'ailleurs je vais me mettre à chanter pour illustrer le tout. Je vais boire aussi un coup parce que je commence à avoir soif. J'ai des volcans de colère, une mer de la tranquillité, des rivières de larmes amères, un rire à fleurir des vallées,
J'ai des jardins de tendresse, des recoins de baisers volés, des falaises au bord de l'ivresse, des regrets qui font la marée. Viens, viens dans mon panorama. Viens, viens, je t'attends dans mon panorama. J'ai des souvenirs en cascade, une île dans la solitude, de l'insouciance en promenade, derrière ma galame dans les Bermudes. J'ai des déserts paradisiaques et des enfers de volupté, un monstre noir au fond d'un lac et l'ironie dans un bosquet. Viens, viens dans mon panorama. Viens, viens, je t'attends dans mon panorama. J'ai la mémoire en acropole, une réserve naturelle, un désespoir au-dessus des poules et l'espérance au pied du ciel. J'ai un océan à franchir pour un continent inconnu. Es-tu prêt à le découvrir, le regard vierge et les mains nues? Le regard vierge et les mains nues. Le regard vierge et les mains nues.
Vous écoutez Au cœur de la ville persan.
She spreads her wings without looking down. Oh, oh. She hits the ground hard and out. And mama says, welcome to life, darling. Ajay, ajay, ajay. Why is life this way? Ajay, ajay, ajay. Why is life this way? She is brave, while she struggles to come off the ground. Ooh, ooh. Flies all over trail, again and again and again and again. And you don't have to be afraid to fail, little baby girl. And why is life this way? Better best,
Claviron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du conservatoire de Persan.
Oui, tout à fait. Depuis de nombreuses années, je dirige cet établissement qui accueille près de 600 personnes, 600 élèves. Donc il y a une équipe de 23 professeurs et 4 personnes au niveau de l'administration et de la coordination des projets.
Hier soir, nous avons assisté au 3e millésime d'Écoute ma compo, qui rentre dans le cadre de Tous citoyens, tous concernés.
En fait, c'est la restitution de travaux de composition de nos élèves. Nous avons pensé il y a quelques années qu'il était nécessaire que nos élèves ne soient pas simplement des interprètes de belle musique, mais de musique écrite, mais qu'ils puissent être également inventeurs, créateurs de leur propre musique et qu'ils fassent entendre leurs propres univers. Dès la première année, les élèves sont amenés par un processus pédagogique, notamment autour de l'improvisation, de la découverte des sons de leur instrument, d'amener à cette forme de composition très personnelle qui peut aller au-delà de la note que l'on connaît. Ça peut être un graphisme très personnel. Toute forme est possible. On essaie de laisser libre nos élèves de s'exprimer au plus profond d'eux-mêmes, si je puis dire.
Alors, hier soir, il y avait des compositions marrantes. Touchante également.
Alors il y avait des élèves de différentes classes instrumentales déjà, hein, donc des instruments à cordes, à vent, donc toutes les familles étaient représentées hier, sauf la percussion cette année. La liberté est grande. Si le propos a du sens, nous gardons le propos, qu'il soit humoristique, profond, grave, léger, plein de mélancolie, enfin voilà. On est vraiment dans cet espace de liberté. Souvent, on se raccroche aussi quand on est jeune. Hein. Ils ont certains enfants avaient 8 ans, donc aux passions, à leur passion. Donc, c'était le tennis, donc il y avait toute une pièce autour du tennis. Donc, le rapport entre le violon et le tennis, parce que c'est l'instrument qu'ils jouent.
J'ai choisi le thème tennis parce que je fais aussi du tennis. Quand j'ai créé cette virgule, j'avais fait un tournoi de tennis. Et je me suis dit qu'avec le violon, je pouvais imiter des bruits de balles, de raquettes, d'animaux et aussi mes pensées. En plus, ma raquette ressemblait étrangement à mon violon. Après, pendant Roland-Garros, j'ai vu que Novak Djokovic avait copié sur ma virgule. Sacré Novak.
Je me lève ce matin et je suis de bonne humeur parce que j'ai un match de tennis à gagner. Je m'entraîne sur le mur de la maison. J'écoute le bruit des balles. Je vais au tennis et je vois des groupes qui discutent. Je vais sur le terrain et je fais quelques tours de terrain. Après, mon professeur me met dans le groupe des lions. Le match commence et c'est à moi de jouer contre Maxime. Je suis un peu stressée.
courtes et des balles plus longues.
Un autre était très, très féru d'égyptologie, donc voilà, il y avait une pièce autour de l'Égypte. C'était donc mis un chèche, enfin voilà, c'était déguisé et costumé. Il y a vraiment une grande liberté.
J'ai choisi le thème de l'Égypte car j'aime beaucoup ce style de musique et j'en joue souvent. Cette musique est calme et envoûtante. Elle permet de facilement s'imaginer une histoire.
C'était une fois dans le lointain royaume d'Égypte. C'était une grande période de sécheresse. Une caravane partit à la recherche d'un puits. Les Égyptiens ne purent remplir qu'une seule gourde. Ils poursuivirent donc leur chemin. Ils arrivèrent dans une magnifique oasis, regorgeant d'eau et de fruits. Conclusion, chameau aveuglé, ne le laissez pas vous guider.
Est-ce que vous pourriez nous parler de l'arbre de la création ?
Alors donc l'arbre de la création, c'était un clin d'œil à une formation que nous recevons, une formation à destination des professeurs, justement dans le cadre de ce projet d'amener nos élèves à la création. Il est bon de parfaire son bagage parce que la création n'est pas un acte facile. Donc amener nos élèves, nos jeunes élèves à créer est parfois très compliqué. Il y a des appréhensions, des moments de doute. Cette formation qu'on suit avec un compositeur de grand, grand talent qui est Alexandros Markias, qui est professeur au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris et qui nous fait l'amitié de venir sur deux journées nous former. Donc va nous permettre d'aller plus loin avec nos élèves et essayer d'effacer un certain nombre de problématiques qu'on peut rencontrer. On a travaillé avec lui notamment sur ce qui est au-delà de la note, parce qu'il est difficile de composer une pièce avec les notes que l'on connaît, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, parce qu'il y a tellement de gens, de compositeurs de grand talent qui l'ont déjà fait, que parfois le propos peut sembler un tout petit peu léger ou, voilà, ou manquer de sens. Donc du coup, on travaille plutôt sur le jeu instrumental, c'est-à-dire vraiment s'amuser avec son instrument, aller chercher les sons les plus improbables, des modes de jeu différents. Et puis, on va aussi travailler sur la texture sonore et non pas la note, c'est-à-dire une couleur d'instrument. Et le deuxième clin d'œil, évidemment, c'était quand on est créateur, on est libre et on est aussi un citoyen. Donc voilà, le clin d'œil à tous citoyens, tous concernés. Et l'art de la création, c'était autour d'une maxime, d'un slogan même, qui est « Créer, c'est vivre libre ». Et donc, c'est une forme qui a été développée autour de la forme d'un arbre, donc pas du tout de portée, pas du tout de note écrite, une grande part d'improvisation, mais avec une structure qui se rapproche de celle d'un arbre, c'est-à-dire le tronc, où on a cette maxime, donc créer, c'est vivre libre, et puis des branches, des ramifications qui forment un arbre et qui font entendre, puisqu'il y avait un rapport entre un mot et une formule musicale, qui était s'engager, lutter, jouer, s'enrichir. Voilà, donc il y avait tout un tas de mots qui avaient été définis avec les instrumentistes et qui ont donc été entendus sous une forme musicale. Voilà. C'était intéressant pour nous de la jouer pendant des travaux de nos élèves. Donc ça a été joué par des professeurs, mais l'idée c'est de pouvoir transférer ou transmettre cette pièce à des jeunes élèves. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de connaître la musique pour jouer ce genre de partition.
Vous êtes directeur, compositeur également, vous êtes professeur ?
Je l'étais, je ne le suis plus parce que j'ai plus le temps. Je m'occupe quand même de trois orchestres du conservatoire, donc un orchestre symphonique de deuxième cycle, donc des élèves qui ont entre 4 et 7, 8 en instrument, un orchestre d'harmonie de deuxième, troisième cycle, donc des enfants qui ont plutôt entre 6 et 10 ans, enfants et adultes d'ailleurs, et puis je m'occupe aussi d'un orchestre de type Mozart, donc cordes et vents, percussions. Là, ce sont des grands élèves avec des musiciens amateurs aussi qui viennent pratiquer la musique ensemble au conservatoire.
Et vous jouez toujours d'un instrument ? Est-ce que ça vous manque ?
Avec le temps, ça se raréfie, mais je suis percussionniste de formation, donc dès que je peux jouer de la percussion ici au conservatoire ou avec un autre orchestre, je le fais avec grand plaisir.
Et puis pour terminer, quels sont vos prochains concerts ?
Alors on a un rendez-vous, notre premier rendez-vous de la saison autour des concerts sandwich, qui est un moment que j'ai initié il y a 5 ans maintenant, qui était d'essayer d'élargir le public. Parce qu'on avait notre public d'élèves et de parents d'élèves et d'amis. Mais l'idée c'était de proposer un nouveau rendez-vous pour un autre public. Donc on a institué ça, c'est un beau partenariat avec l'Union Musicale de Persan, qui s'occupe de la saison musicale, mais qui nous aide beaucoup sur ce projet, qui est un temps de musique court, 30 minutes, et une collation qui est proposée aux personnes qui viennent écouter. Donc en gros, rendez-vous à 12h15 au conservatoire, on écoute 30 minutes de musique, donc tous les styles. Le prochain rendez-vous, c'est autour de la bossa nova, il y aura du chant piano, il y a de la musique contemporaine, il y a du jazz, voilà, tous les styles de musique. Et puis on se retrouve autour d'un plat, là qui sera évidemment un plat brésilien. Et puis au mois de décembre, nous avons trois rendez-vous. Nous recevons pour la première fois le Festival Théâtral du Val d'Oise avec un spectacle qui s'appelle Un fils de notre temps. Le 10 décembre, nous serons sur le marché de Noël avec un petit ensemble de percussions brésiliennes qui a été monté dans le cadre d'un projet que nous avons initié qui s'appelle Sapulse au village. Donc l'idée de permettre à des enfants et leurs parents, puisque c'est intergénérationnel, de s'initier à la percussion. Donc pareil, pas besoin de connaître la musique. On vient jouer, on apprend les formules, et on va donc les entendre le 10 décembre après-midi. Et puis Babar en fanfare, le mercredi 14 décembre, donc l'histoire de Babar, prétexte pour faire entendre toute la famille des cuivres, trompette, cors, trombone, tuba.
Les infos culturelles et sociales de la ville de Persan.
Soirée Téléthon le 2 décembre, organisée par la ville de Persan avec les associations. De 19h à minuit, avec au programme des animations sportives, des initiations sur le handicap, des activités culturelles, vente de boissons chaudes et crêpes. Plus d'infos au 01 39 37 40 54. Conseil municipal le 9 décembre, les élus se réuniront à 20h30 à la salle Pierre Brossolette en séance ordinaire. C'est ouvert au public. Le 10 et 11 décembre, marché de Noël et soirée choucroute à Persan. Le samedi 10 et dimanche 11 décembre sur le parvis de l'hôtel de ville. Et le soir, rendez-vous à la salle Marcel Cachin pour la soirée choucroute du comité des fêtes de Persan. Tarif 32 euros. Pour plus d'infos, faites le 01 39 37 40 54. Le 15 décembre se tiendra le retrait des colis de Noël. Les seniors de Persan qui ont fait leur demande pour obtenir leur colis de Noël sont attendus le 15 décembre pour le retirer à la salle Marcel Cachin entre 9h et midi, puis entre 13h30 et 16h30. Pour plus d'infos, faites le 01 39 37 48 89. Votre magazine touche à sa fin. Merci à tous de l'avoir suivi. Prochain au cœur de la ville Persan le jeudi 28 décembre à 19h et rediffusé le dimanche 31 à 14h. Pour diffuser vos annonces, nous faire part de vos impressions, suggestions et propositions de thèmes d'émission, de reportages, si vous souhaitez témoigner, participer à l'émission, n'hésitez pas à laisser vos messages au 01 39 37 03 36.
01 39 37 03 36.